L'équipe imaginaire est de retour sur le studio pour parler. Alors nous retrouvons ici Karine et Sébastien, mais pas que, puisque nous avons un invité surprise.
Oui, Benjamin Calam, qui était présent au salon, comme tu sais, Pierre-Marie et Karine, donc le week-end du 14 et 15 mai. Et je pense que nous allons un peu revenir un peu sur l'après-salon.
On va vraiment faire que ça, non? T'as invité Benjamin pour d'autres choses.
Ah oui, mais je veux dire, au début de l'émission, avoir les retours, notamment de Karine, sur le salon, comment ça s'est passé, et puis avec Benjamin, parler de son roman, premier roman, Le Vent du Nord.
C'est ça. Et puis, on aura, bien sûr, quelques petites choses, puisque nous avons un peu de musique de Ogezor, puisque Ogezor, et puis nous avons une interview que nous allons retransmettre. Ogezor, qui sont-ils? Est-ce que, Karine, tu peux nous en parler un peu plus?
Ogezor?
Oui, Ogezor,
tout à fait. Je ne les connais pas beaucoup, hein. Je pense que tu peux en parler beaucoup plus que moi.
La seule chose qu'il fallait dire, c'est qu'ils étaient présents samedi soir pour faire un concert. Alors, Ogezor, c'est Entropie Zéro qui ont changé de nom et qui avaient fait le concert, l'animation musicale de notre édition de 2019. Et ils ont refait donc l'animation musicale de samedi soir. Benjamin, t'en as pensé quoi, toi?
Ouais, ça m'a beaucoup plu.
Je sens que vous allez être le cas
moi,
ce soir.
Vraiment. J'aime beaucoup le métal. Et puis ça reprenait des thèmes connus. Vraiment, c'était très très plaisant. Surtout après une journée comme ça. C'était détendant. Ça permettait de relâcher tout ce qu'on avait.
Ah bah ça tombe bien. Alors tu parles d'une journée comme ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'une journée comme ça?
Le salon. C'est-à-dire que nous étions dans la chaleur du salon. Kurnonski, c'est ça?
Kurnonski.
Kurnonski.
Pour ton information, puisque je sens qu'on ne t'a pas briefé sur ça, Kurnonski est un gastronome célèbre, gastronome angevin. Et donc nous étions dans les salons qui sont à son honneur, puisqu'il y a quand même pas mal de concours de gastronomie qui s'y passent.
Ouais, d'ailleurs, on a eu le dîner là-bas après.
Fait par un gastronome, mais qui lui n'est pas angevin, il est pommeréen, si je me souviens bien. Tu as accompagné Benjamin d'une charmante demoiselle, et j'ai zappé son nom. Alors, comment t'appelles-tu?
Zeda.
Alors, si tu parles dans le micro, c'est encore mieux.
Là, c'est bien.
Oui, mais tu... Et donc, vas-y, redonne-moi ton nom.
Veda.
Et qui es-tu, Veda?
Eh bien, je suis la stagiaire de la maison d'édition L'Embuscade, qui a publié, du coup, le premier roman de Benjamin.
Alors, L'Embuscade, c'est une maison d'édition, premier roman de Benjamin, mais il y a combien de livres dans la maison d'édition?
C'est aussi le premier roman de la maison d'édition.
Ah, et alors quelle va être la ligne éditoriale? Si tu es stagiaire, tu la connais bien, cette maison d'édition?
Eh bien, l'objectif de la maison d'édition, c'est surtout de publier des romans autour de l'imaginaire, comme le thème du salon du week-end dernier, et du coup, que ce soit de la fantasy, fantastique, ou tout ce qui tourne autour de ces thèmes-là.
C'est quand même une sacrée coïncidence qui vous publiez, toi, qui écrit de l'imaginaire, vous vous retrouviez à un salon d'imaginaire. Franchement, je ne sais pas qui est-ce qui vous a embarqué là-dedans, je pense qu'il a fait une erreur. Mais c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. On reviendra sur tes écrits, Benjamin, puisqu'il y a une interview en direct réalisée par Sébastien, dont le but est de faire découvrir ton univers et surtout toi-même. Alors, vous verrez comment est-ce que vous faites, mais Veda, toi qui es extérieur à tout ça, puisque tu n'es que stagiaire, hein, excuse-moi du peu, qu'est-ce que tu as retenu du salon?
C'était mon premier salon déjà, donc c'était aussi une expérience pour moi. Et c'était très, très sympa, une très bonne ambiance. Mm-hmm. Et ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres petites maisons d'édition locales et aussi des auteurs locaux ou non. Mm-hmm. Et du coup, avec un panel de thèmes et de livres intéressants.
qu'est-ce qui t'a marqué parmi les invités et les intervenants qui étaient là? On va faire le tour de table, je vais interroger tout le monde, t'inquiète pas. Il y a bien quelqu'un qui t'a marqué, non, il n'y a personne, à part Benjamin, oh, bravo.
Surtout Benjamin.
Et vivement le corporel.
Elle fait bien son travail.
Ok, bah, toi Benjamin, qui est-ce qui t'a marqué, à part toi-même?
Alors, Benoît Patrice, oui. Que vous aviez interviewé il y a 2-3 semaines.
Le 3 mai, ouais.
Ouais, il y a 2 semaines, exactement.
Charme Noir.
Intéressant, bah, j'ai acheté son bouquin et j'ai commencé à le lire. Et,
lequel il en avait
son
deux.
Nouveau, donc Charme Noir. Mm-hmm. J'ai lu la première nouvelle qui a un style un peu de Cthulhu, on va dire, de...
C'était d'accord.
Voilà, bon, je vais pas raconter. C'est, mm-hmm. c'est une série de, c'est même pas des nouvelles, c'est des
historiettes instantanées. C'est des micro
nouvelles. Oui, et bah il écrit très bien. En tout cas, de ce que j'ai feuilleté, ce que j'ai un peu lu. Mm-hmm. Et notre voisin aussi.
Francis Carpentier.
Exactement, Francis Carpentier, qui est non seulement un très drôle, un personnage très drôle, mais aussi qui écrit. J'ai eu l'occasion, puisque après des dizaines d'heures à côté de lui, j'ai eu le temps de feuilleter ses bouquins, qui a une écriture très vivante, assez drôle. Et donc j'ai beaucoup, je vais en acheter un, je vais voir ce que ça vaut sur la durée. Mais
donc toi, tu nous parles de deux auteurs. Sébastien, qui est-ce qui t'a marqué? T'as pas le droit de citer Benjamin Calam, il est là, c'est pas du jeu.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est la venue de Xavier Desbarat, que j'ai eu en interview téléphonique, comme tu te souviens, il y a quelques mois de cela, pour présenter un slasher dont vous êtes le héros. Et j'étais agréablement surpris par, l'accueil plutôt enthousiaste du public qui est venu à son stand pour un livre horrifique. Et en plus, il y a eu Valérie Cluzel qui est venue donc présenter ses œuvres donc de jeux, de livres-jeux. Et j'étais content de voir que ces auteurs donc et illustrateurs pour Xavier, avaient rencontré quand même un bel accueil pour leur production de littérature interactive et de voir que la littérature interactive donc pouvait plaire et donc dans le cadre de notre salon imaginaire.
Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu avec Xavier Desbarat, c'est que pour deux livres achetés, vous avez des sous-bocs à l'effigie de tueurs en série, et ça, c'était franchement la classe, pouvoir boire une petite blonde sur un sous-boc de tueurs en série, votre préféré, celui que vous choisissez, ça, c'est quand même vachement la classe. Le meilleur pour la fin, Karine. Non, t'as raison, j'aurais dû choisir quelqu'un d'autre.
C'est méchant. Eh bien, moi, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu plus avec les éditions d'Est en Ouest, notamment, et j'ai fait
Qu'est-ce qu'on font ces maisons d'édition?
Je pourrais pas forcément tout expliquer, elles expliqueront mieux que moi, mais en tout cas, c'est des belles maisons d'édition qui promeut des petits auteurs qu'on connaît pas du tout.
Est en Ouest fait de la traduction d'ouvrages asiatiques et spécialement japonisants, donc littérature blanche, polar et imaginaire. Et puis j'ai fait anthologie et littérature blanche et imaginaire avec très peu de traductions. Ils ont d'ailleurs une de leurs nouveautés qui sort d'un auteur que j'apprécie énormément et qui plairait à Benoît Patrice, qui est Bruce Holland Rogers, qu'on avait reçu en 2019 et qui est spécialisé dans la micro-nouvelle. Auteur américain qu'on avait reçu donc et qui a une nouvelle parution et traduction chez Gephir. Je vous propose un petit morceau d'Ogezor pour découvrir ou redécouvrir. Je ne me risquerai pas à donner le titre vu mon accent que vous connaissez magnifiquement bien. Je vous propose d'écouter ça sur le 101.5 Radio G. Ogezor, une véritable petite berceuse auquel on a eu le droit pendant le salon. Nous enchaînons tout de suite sur une autre berceuse, à savoir l'interview de Benjamin Kalam. Benjamin, je te laisse entre les mains soyeuses de Sébastien.
Et on va commencer par donc un petit pitch rapide présenté par Karine, qui a très apprécié le roman.
Oui, en effet. Entre guerre de pouvoir et volonté d'indépendance et un vent du nord bien mystérieux, la tension monte et nous sommes embarqués dès les premiers instants de lecture dans cet univers. On va suivre principalement par l'envoi de lettres ce qui se passe à Kessil et l'excursion que va faire un personnage nommé Magal pour les siens. Voilà.
Et donc, moi, je vais parler de ton nom, Benjamin Kalam. Bah, pour moi, ça sonne, ton nom de famille, tel un nom de plume. Et jusqu'à ce que le vent du Nord, titre de ton roman, donc, pousse ta maison d'édition L'Embuscade à se déplacer au Salon Imaginaire 2021. Résume-nous sur le 101.5 ce qui, par étapes, t'a conduit à devenir auteur.
C'est très simple, mon père. C'est-à-dire que depuis... aussi loin que je m'en souvienne, je dirais. Mon père m'a lu des livres, enfin, à mes sœurs et à moi, tous les soirs, ou racontait des histoires quand on était à court de livres. C'est-à-dire que je pense que j'avais 3 ou 4 ans quand mon père nous a lu Le Seigneur des Anneaux. Enfin, le Hobbit d'abord, Le Seigneur des Anneaux, puis Le Silmarillion. Mais aussi de la littérature classique, L'île au trésor par exemple de Stevenson ou d'autres choses. Et mes deux grands-pères aussi nous racontaient des histoires et toute ma famille, ma mère et mes deux grands-mères nous lisaient aussi des histoires. Donc j'ai été bercé par des histoires et de l'imaginaire entre autres. C'est ça qui m'a amené à aimer les histoires et à vouloir en raconter. Et avec mon père aussi j'ai commencé à faire des jeux de rôle. Et puis comme on grandit bien un jour... je me suis transformé en maître du jeu. Et un beau jour, j'étais à la fac, j'avais des amis qui faisaient du roleplay, qui m'ont demandé de dessiner une carte. J'ai dessiné une carte pour eux. Et puis j'ai dessiné une autre carte pour moi. Et puis je me suis dit que j'avais envie de raconter des histoires dans cette carte, dans ce monde que j'avais fait naître avec mon crayon. C'est comme ça qu'est né le vent du Nord.
D'ailleurs, la carte donc en question figure bien page 6.
Elle figure bien dans le bouquin. Alors évidemment, j'ai fait des ajouts depuis ce moment-là, mais c'est exactement la même carte, quasiment trait pour trait, depuis ma première année de fac.
Alors moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que sur la feuille promotionnelle que m'avait remise Claudia qui dirige la micro maison d'édition locale L'Embuscade, c'était marqué en genre roman fantasy, ainsi que sur le site donc de l'édition de L'Embuscade, c'est spécifié roman fantasy. Mais c'est pas le cas là en première ou quatrième de couverture sur la page de titre. Et pour moi, en quoi le vent du Nord dépasserait-il pour toi le simple cadre de la fantasy?
Bah. Je pense que c'est... Je parle à des convaincus probablement dans cette pièce, mais pour nous, ce qui fait l'intérêt de l'imaginaire, c'est évidemment qu'il est divertissant, mais aussi qu'il a une puissance symbolique qui va au-delà du divertissement. Et comme n'importe quelle œuvre de fiction, c'est très connu avec la SF, où souvent on va explorer les développements technologiques de nos sociétés, mais en réalité la fantasy aussi exprime un avis, un point de vue sur nos sociétés, et pas forcément un point de vue sur une société passée idéalisée, mais aussi sur la société actuelle et même future, en pouvant faire des propositions d'un état social, même si c'est dans un monde médiéval en l'occurrence, ça fait complètement écho, je l'espère, à notre réalité et aux possibles réalités de notre futur.
Et tu nous as cité là tout à l'heure Tolkien, et quelles influences autres que Tolkien se perçoivent dans ton livre?
Homer.
Oui.
Homer Simpson.
Aussi. On parle de bière aussi, mais non, plutôt Homer, l'Iliade et l'Odyssée. Bah justement, en fait, c'est typiquement le genre d'histoire. Alors j'allais dire fantasy, c'est pas du tout, ça correspond pas, parce qu'en fonction de l'époque ça existait pas du tout, c'était pas considéré de la même manière, mais il y a de la magie, il y a des dieux qui interviennent, il y a des héros, il y a de la politique, il y a des batailles, et il y a aussi un message sur le monde, à tel point même que, je veux pas dire de bêtises, il me semble que c'était Aristote, mais les spécialistes me corrigeront, considérait qu'il ne fallait absolument pas faire lire ça à la jeunesse athénienne, parce qu'on voyait des dieux et des héros qui pleuraient, et donc ça allait dépraver la jeunesse athénienne. Donc oui, ça avait déjà à cette époque-là une influence, un message social, de vision du monde, de quel devait être l'idéal de la société ou non. Et donc Tolkien et Homer, ce sont des bons exemples. Après, j'ai d'autres hors du champ, peut-être de la fantasy. J'aime beaucoup Elsa Triolet. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle est plutôt connue pour avoir été l'épouse d'Aragon. Mais c'est aussi une autrice de grande qualité. Hein. C'est très personnel, intime, sa manière d'écrire. Et bon, c'est plutôt socialiste, voire communiste. Donc, j'aime bien. Mais c'est vraiment, c'est touchant. Enfin, certains, j'ai pas tout aimé de manière égale, mais et elle mérite d'être beaucoup plus connue, parce qu'on connaît tous Aragon, mais les temps étant sexistes à l'époque.
Et d'ailleurs, en parlant de choses qu'on connaît moins, donc Pierre-Marie a confondu Avatar, le groupe, avec le film Avatar. Et il y a un titre vraiment qui t'a beaucoup servi en bande-son pour la rédaction de ton livre et qu'on va passer un extrait, Mine of Moria.
Oui, nous en dire un The peu Mine of Moria. Alors, c'est un groupe que j'ai découvert en cherchant sur un autre groupe de métal, un groupe, il me semble, peut-être finlandais, mais non. Suédois, j'arrive pas à retrouver. Bon, Avatar, qui est un groupe beaucoup plus connu de metal punk, c'est très très bien. Je vous conseille absolument surtout leur album Hail the Apocalypse. Et donc je recherchais sur ce groupe et je suis tombé sur cet album Memoriam Draconis, qui est en fait d'un groupe qui s'appelle aussi Avatar, mais un groupe belge. Et comme j'écoute de la musique en écrivant, pas que du metal, j'ai écouté leur album plusieurs fois en écrivant, et particulièrement ce morceau, donc qui est le dernier morceau de leur album, qui m'a inspiré spécifiquement pour un passage, et à chaque fois que je lis ce passage du livre, je pense à ce morceau.
Bon, on va le diffuser, PM. la première partie, mais je conseille à nos auditeurs donc de l'écouter en entier, Avatar, The Mine of Moria.
Ah, tout l'album.
Tout l'album.
C'est un album de métal qui n'a rien à voir avec celle-là.
Il y a Star Castle aussi qui est assez reposante, que j'aime particulièrement. Alors là, c'est donc ton premier roman et également ton premier salon littéraire, donc qui s'est passé les 14 donc et 15 mai. Et comment as-tu dépeint l'histoire, dis-moi Benjamin, de ton premier roman aux auteurs et visiteurs de passage pour un peu leur susciter le désir de s'y plonger?
Alors ça a pas mal évolué au cours du salon. Je me suis amélioré. Je me suis plus attaqué aux personnages. Donc il y a deux personnages principaux qui sont Malag et Almal, donc un nain et un humain, et qui se retrouvent confrontés à l'effondrement de la société dans laquelle ils vivent. Et donc c'est une société qui est dominée par un empire qui est un empire nain, donc les nains pour une fois dominent. Et confrontés à, ils se retrouvent à voyager plus ou moins en parallèle. Et à questionner, bah, je pense qu'Arine avait fait un très très bon résumé, mais à savoir comment sauver ou proposer autre chose à cet effondrement.
Alors je vais citer également, dis-moi si je prononce mal, Adraxeln, le maudit. Mm-hmm. Alors ta nouvelle en ligne sur le site de l'Embuscade, donc je vais l'épeler, c'est édition, trait d'union, de trait d'union, l'embuscade.com. Donc c'est en ligne sur le site de l'Embuscade, lecture libre. Et cette nouvelle prend place, tout comme Le Vent du Nord, donc dans le monde de l'Empire nain d'Alvache. Cet univers, aussi détaillé et précis que l'est la Terre du Milieu, pour moi, dans Tolkien, que reflète-t-il, Benjamin, de notre Terre?
Ah. Alors c'est intéressant parce que Adraxeln le maudit, je l'ai écrit comme un conte au temps où se passe le récit de mon roman. Donc par les contemporains du roman, c'est considéré comme un conte, une légende, comme l'Iliade et l'Odyssée par exemple, on en parlait à l'instant. Et ce monde, ce qui représente, en l'occurrence c'est une sorte, forme d'allégorie plutôt d'Europe. Et l'empire, je pense que c'est clairement une image de l'impérialisme sous toutes ses formes, comme on peut en avoir en Europe, mais dans le reste du monde aussi. Bien sûr, à l'heure actuelle, on pense facilement à l'impérialisme russe, mais il ne faut pas oublier que l'impérialisme est aussi chez nous.
Et dis donc, tu le sais pas, PM, mais Benjamin, il a une âme d'artisan. En témoigne la cotte de cuir qu'il fabriquait de main de maître au salon. Alors, je l'ai placé, cette activité de Benjamin, entre deux dédicaces, pour Justine, qui est un peu notre fidèle auditrice de l'émission.
Alors, en fait, on ne savait pas trop si c'était une âme de cuir ou s'il faisait du crochet, mais il passait son temps à coudre un petit peu. Alors,
c'est une cuirasse du 12e, 13e siècle.
Alors, la petite vanne, je suis désolé, mais elle est aussi faite parce que derrière toi, il y avait un magnifique étendard cousu main de tes blanches mains.
Et cousu et peint. Tout à fait.
Pour les filles qui veulent une magnifique robe ou pour les hommes qui veulent un magnifique kilt, faites appel à Benjamin Calam.
Je m'entraîne, les robes c'est quand même un prochain niveau, mais bientôt j'espère, c'est des talents utiles, on devrait nous les enseigner plus souvent. Savoir rapiécer ses vêtements ou en faire de nouveaux, c'est pratique, c'est plus écologique aussi.
Et l'étendard en question, on peut le voir parmi les très nombreuses et belles photos prises par Mathieu Sédas pendant le salon et qui figurent, comme tu le sais, PM et Karine, sur notre page Facebook.
Alors justement, on parle de l'étendard, mais que représente-t-il?
Oui. Alors, il représente une main d'argent abaissée, surmontée d'une fleur de sable sur champ de sinople. En héraldique, ça veut dire que c'est un étendard vert avec une main blanche en bas et en haut, il y a une fleur noire. C'est l'un des blasons qui est décrit dans le roman. Il n'a pas particulièrement de signification. Il me semble que c'est le bouclier de Malag, l'un des personnages principaux qu'il a à un certain moment. Mais il n'y a pas de. Alors j'ai dû réfléchir au moment où je l'ai écrit. J'ai dû avoir une réflexion profonde sur ce que ça devait signifier. Je dois avouer que je l'ai oublié.
Mais en tout cas, il était très beau. Et puis, du coup, ça fait quand même, pour ton premier salon, et j'espère pour tous les autres, un endroit, un fanion pour savoir où se situe l'auteur. Même si je dois t'avouer que quand on te cherchait, on avait plus souvent tendance à te croiser au bar qu'à ta table.
C'est un mensonge. Seulement dimanche.
Mais boire d'aussi bonnes bières que dans l'auberge ambrée du début. Hein. Et d'ailleurs, les fûts ont été vite vidés.
Bah, je n'ai pu boire qu'une seule bière, d'ailleurs.
Et pour conclure, tu as également l'âme d'un aventurier, puisque tu voyages aux quatre points cardinaux, tu habites Pampelune. Et tous ces voyages que tu as faits jusqu'ici, Benjamin, qu'ont-ils insufflé dans l'ADN de ton bouquin, où les nains, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, sont des acteurs principaux? C'est-à-dire que les voyages... t'ont-ils apporté des choses que tu as voulu un peu rapporter dans ton roman qui reflète un peu aussi notre monde, comme tu le disais tout à l'heure?
Oui, sans doute un peu. J'ai commencé à écrire le roman avant de voyager. Et ensuite, je me suis interrompu pendant mes voyages. Je l'ai fini, j'ai revoyagé, je l'ai corrigé. Donc évidemment, ça a influencé. Notamment parce que j'ai mûri, mon style d'écriture a mûri. J'ai lu des choses dans d'autres langues aussi. Mais aussi parce que forcément de voyager et de rencontrer des nouvelles cultures, ça ouvre. Et même si je pense que j'étais très ouvert aux autres cultures avant de voyager, ça m'a encore plus ouvert aux autres cultures, à la diversité. Et je pense que c'est quelque chose que j'essaye de rendre relativement correctement dans le bouquin. Je m'améliore encore dans le deuxième que je suis en train d'écrire parce que je n'étais pas satisfait. Il y a des choses que je corrigerai encore à nouveau dans ce premier bouquin. Comme toujours avec un livre, c'est sans fin, on peut toujours l'améliorer, on n'est jamais 100% satisfait, mais c'est pour ça qu'on en écrit d'autres.
Ah voilà, moi je suis très content en tout cas de t'avoir eu en interview. C'est une chance avant que tu repartes en Espagne, donc accompagné aussi par Veda qui nous a rappelé les...
Elle repart pas en Espagne. Ah, non,
je reste sur Angers.
Voilà, mais qui nous a rappelé sa bonne expérience au sein de l'embuscade, donc qui est toujours embusquée pour nous surprendre donc avec son imaginaire très développé, puisqu'il y a d'autres plumes également qui figurent sur le site. Donc je vous invite à lire des nouvelles et qui pourraient rappeler un petit peu pour certains, certaines, le style de Benoît Patrice. Et je vais laisser le mot de la fin à notre cher président Pierre-Marie.
Lisez ou mourrez idiot.
Tout à fait, sur le 101.5 FM.
restions sur le thème de la berceuse épique, qui doit être quand même la modalité sur toute cette émission. Un choix qu'a fait Sébastien. Pourquoi as-tu choisi Two Steps from Hell?
J'aime bien les musiques. Quand je lis des livres-jeux, bah, ça me met encore dans l'ambiance. Comme pour le livre de Benjamin, ça fait voyager, ça décuple encore plus l'imagination, ce type de musique.
Très bien. Avant de passer à l'interview d'Ogezor, qui nous raconteront leur évolution, pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à devenir Ogezor après une transformation Entropy Zero, je pense qu'il est quand même important de souligner que ce salon s'est terminé et surtout que c'était le moment de la remise de notre troisième édition du prix Heyerdahl, remis à Joël Wintrebert, suivant les prononciations. Je sais qu'elle m'écoute et qu'elle va me taper dessus la prochaine fois qu'on se verra, alors autant lui donner de bonnes raisons. Joël Wintrebert a sorti pas mal de livres jusqu'en 2014, date de son dernier roman Pollen, sorti chez Le Diable Vauvert, un roman féministe et féminin que je vous encourage à retrouver et qui a donc été la lauréate de notre troisième édition pour toute sa carrière d'autrice de SF, de polar, de roman historique, traductrice, journaliste, anthologiste, éditrice. En gros, je me demande un truc qu'elle n'a pas fait dans le milieu de l'imaginaire. Et à part ce qui est illégal, je vois pas ce qu'elle n'aurait pas pu ne pas faire. Je vous laisse en compagnie de Gezor, qui ont répondu à tes questions, Sébastien.
Quelques-unes de mes questions et à celles de Romain, donc autour de la performance live, un peu de l'album, dont je ferai une petite chronique pour le mois de juin pour nos lecteurs sur le site Imaginaire.
Tout de suite au Gezor au 101.5 sur Radio G.
Les salons Kurmanski, juste après le concert d'Ogezor, je prononce bien ?
Tout à fait, tout à fait. Ogezor, la vraie prononciation, mais comme c'est un peu chiant à dire, on peut dire Ogezor. Je tolère.
C'est beau.
Les salons Kurmanski qui sont toujours debout d'ailleurs, quand Pierre-Marie m'a dit, allez, on refait jouer ces gens qu'on a connus une époque sous le nom d'Entropy Zero dans les salons Kurmanski, j'ai dit, ouais, t'es sûr et tout, ça va. Mais vous en êtes super bien sortis, les gars.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais. Merci.
À chaque fois, d'ailleurs, c'est un peu un défi. Au Grenier Saint-Jean aussi, je me dis, bon, là, je pense qu'au niveau de l'acoustique, c'était encore plus compliqué. Mais,
ouais, c'était plus. Ouais. Ça résonnait plus, bizarrement, ici qu'au Grenier Saint-Jean. Mais l'avantage du projet, c'est qu'il passe partout. Donc en fait, on s'adapte facilement à l'acoustique des lieux. Je dis pas que c'est parfait non plus, mais le style permet vraiment d'aller jouer un peu partout. C'est ça qui est intéressant.
Voilà. Donc je disais qu'on vous avait connu sous le nom de Entropy Zero. Alors pourquoi ce changement ?
Il y a plusieurs raisons. Je vais en garder une pour faire plus clair. C'est vraiment une évolution du projet. Aller vraiment plus en profondeur dans l'univers proposé par Ogezor, justement, qui veut dire, donc c'est un dialecte propre au projet.
D'accord.
Basé sur des mots à double lettre, qui veut dire donc la lumière verte, Ogezor, qui reprend le EZ d'Entropy Zero, petit clin d'œil. Voilà. Et voilà, donc l'idée c'était d'aller plus loin là, dans le délire, dans l'histoire, le background. Du projet, parce que maintenant ça raconte toute une histoire de deux frères, dans la vraie vie comme dans le projet.
Exactement.
Et il y a toute une. Voilà, il y a plein de. C'est un peu un space opéra finalement maintenant. Il y a plein de personnages et de clans qui interviennent et qui s'affrontent pour le devenir de l'univers. Alors, si on fait 10 minutes, ça va être dur de tout raconter en 10 minutes. Mais voilà, en gros, l'univers évolue en cycle. Donc c'est théorie quantique à boucle, je sais pas si ça peut. théorie gravitationnelle à boucle. C'est une théorie physique contemporaine qui explique qu'en fait le Big Bang n'existe pas vraiment, mais c'est des rebonds. L'univers s'expand, se rétrécit pour faire simple, et se re-expand, et ainsi de suite, et à l'infini. Et donc dans ce bordel-là, y a différents clans qui s'affrontent pour justement soit péter le cycle naturel de l'univers qui s'expand, qui se rétrécit, qui se re-expand, soit le maintenir en vie, tel que nous on le fait, donc le clan Ogezor, Et voilà, il y a plein d'autres personnages à creuser, à développer, des méchants, des gentils pas trop gentils, des méchants pas trop méchants. Le but, c'est de pas d'être manichéen, mais vraiment d'aller chercher des subtilités entre les interactions, etc. Donc, c'est ce que racontent les morceaux de plus en plus, l'e-book qu'on a mis dans le deuxième album, le jeu vidéo qu'on a aussi mis dans le deuxième album, le clip qui vient de sortir qui raconte aussi une partie de ça, le futur court-métrage qui va raconter l'histoire des deux frangins
suite
de 1974 et de F23V1.
Et vraiment, il y a plein de choses à creuser et F qui est le leader, je le dis souvent, incontesté, incontestable, a une vision sur le long terme, très long terme. Et c'est ça qui est bon, c'est qu'en fait, on en est, je pense, que vraiment qu'au balbutiement, peut-être même de l'univers d'Ogozor.
Jusqu'où va nous emmener l'histoire, on ne sait pas encore.
Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que là, pendant le concert là, d'une heure, j'ai vraiment décollé. Je me sentais mais ailleurs, hors danger. Et on avait beaucoup d'images, de films, de séries que j'ai reconnues, des plus connues ou moins connues.
Ouais.
Et en même temps, quelles autres références là, je vais parler un peu des livres. Comme là, vous avez joué dans le salon de l'imaginaire où il y a plein de livres. Quelles références littéraires auraient nourri également le projet Ogozor, en plus des films, des séries animées?
Alors, bon, paradoxalement, moi je suis pas un lecteur ouf en termes de livres. Bon, je sais qu'imaginaire c'est dédié aux livres. Ceci dit, pour de vrai, quand j'étais jeune, c'est vrai que Jules Verne m'a vachement imprégné. Bah, tous les classiques de Jules Verne que je lis, c'est vraiment des livres que je me souviens vraiment, qui m'ont vraiment marqué. Et je pense que ça c'est facile de dire ça, mais je veux dire, c'est vrai quand même, qui m'ont vraiment imprégné. Et Barjavel aussi, ça fait partie des trucs que je peux citer sans pipoter, quoi. Après, je sais pas si
En fait, moi quand j'étais petit, il y avait un bouquin qui m'avait énormément plu, c'était Le Gambit des étoiles. Alors, je sais pas si vous connaissez ce livre.
Ça me dit quelque chose aussi.
C'est en fait une histoire d'échiquier, justement, où en fonction des positions qu'on mettait, enfin on mettait ses doigts sur l'échiquier, et on pouvait en fait traverser tout l'univers et tout. Et le gars partait dans une aventure de ouf, parce qu'à la base il partait chercher cet échiquier. Et ça, moi c'est par exemple, c'est un des bouquins dont je fais souvent référence, enfin auquel je fais souvent référence. Et puis comme on dit avec F, Barjavel, forcément, moi j'avais adoré, et puis je vais faire un CRS. En plus, on a de la chance, il est chez nous.
Après, pour compléter le truc, moi je suis très bande dessinée, vraiment beaucoup. Donc, moi, c'est tout ce qui est Incal, Métabaron, enfin tout ça, c'est vraiment. Ça m'a vraiment lancé sur un truc. J'ai vraiment plein de BD de science-fiction, et dans tout genre d'ailleurs. Donc, roman un peu bémol, voilà, je prends le carton, mais. Mais il y a d'autres sources que le cinéma, je veux dire. C'est ça un petit peu que je voulais essayer de faire passer.
Bon, et revenons à votre univers, la lumière verte. Ouais. C'est quoi? D'ailleurs, votre concert qui a baigné dans une lumière verte. Hein.
Au niveau d'Entropie Zéro, je suis un peu parti sur le vert, parce que j'aime bien le vert. Mais il y a plusieurs raisons. Hein. Bon, le fondement, c'est que je suis fan de deux trucs, de Hulk. J'ai quasiment tous les comics depuis le premier jusqu'au. Enfin, je me suis arrêté en 2015, je crois, 2016. Donc, je voulais un truc sur le vert, les rayons gamma. Moi, ça m'a toujours. C'est un personnage que j'adore. Et un autre groupe de musique qui s'appelle Typo Négative, qui est aussi baigné dans le vert. Que ma femme adore aussi, d'ailleurs. Donc, c'était deux bonnes raisons pour dire ok, je vais partir sur cette couleur-là pour développer quelque chose. Et le changement de nom, Ogozor. Bah là, j'en ai fait quelque chose. C'est pas juste une lumière verte. Factice, c'est la lumière intérieure qui permet la transcendance. Le vert, c'est une couleur un peu magique. Ça peut être les sorcières, comme ça peut être les extraterrestres. Donc c'est une couleur un peu particulière qui, voilà, qui souvent on dit bah, et le vert en théâtre, on n'en met pas, par exemple. Bon, bah, nous, on met que du vert.
Mais dans l'univers que vous êtes en train de développer,
ouais.
C'est quoi? Enfin, est-ce que ça a quelque chose d'important là?
Ouais, mais là, j'ai pas encore.
Ah oui,
t'as un avance sur l'histoire.
Ah oui,
je distille. Okay.
On parlait des vidéos, donc on a vu pendant votre concert des extraits de films, de jeux vidéo. Il y a aussi des choses que vous avez fait vous-même.
Oui.
Fait vos vidéos là?
Alors bah c'est moi qui fais les trucs. Donc il y a de la vidéo montée ou fabriquée, donc avec des images, etc. Et puis il y a des extraits de clips qu'on a fait. Donc les clips, c'est moi C'est moi qui monte, c'est moi qui réalise, c'est moi qui,
d'accord, okay,
qui fait la post-prod. Mais et donc j'essaie de récupérer des éléments de ça. Forcément, sur un concert d'une heure, c'est difficile de faire une heure de vidéo originale et pas répétitive. Mais j'essaie le plus possible de mettre plein d'éléments, plein de références, pour le coup, de plein de trucs qu'on aime. Donc des fois, voilà, quand on est sur les chansons, qu'on a fini une chanson, je dis bon, maintenant il faut que je fasse une vidéo pour le live. J'en parle avec K. Je lui demande aussi, bah t'as pas une idée, parce que là je suis un peu sec. Donc voilà, comme on a un peu des. Enfin, beaucoup des.
On a la même base, puisque comme base, on est frères.
On est vraiment frères.
Non, mais
on a la même culture, quoi.
C'est donc, ça qui est bien, c'est qu'on est. En plus, on a eu la chance
d'envoyer un peu la balle, quoi.
Ouais, et puis on a la chance de baigner dans. Enfin, on a été baigné très, très, très vite dans le cinéma, avec notre père, notamment. Et donc, on a une. Enfin, en tout cas, entre guillemets, on a une très, très bonne culture cinématographique.
Au sens large.
Au sens très, très large.
Pas sûr, science-fiction,
voilà, on regarde tout plein de films. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que l'avantage d'être frère, bah, c'est qu'on fonctionne un peu comme un seul homme. Donc c'est F qui fait tout, mais on a les mêmes refs, on a les mêmes choses, donc l'univers il reste tout le temps sur la même ligne, et ça c'est plutôt cool. C'est ce qui fait aussi l'unité en fait de ce groupe. Hein. Mm. Pas de dissension, tout va dans le
à l'essentiel.
À l'essentiel.
Moi, il y a une chanson que j'aime particulièrement, bon, ouais, qui figure pas dans le set. J'imagine pourquoi, parce qu'elle détonne. Ouais. C'est la dernière track qui clôt donc Distortion Process, ouais, donc l'album dont on parle là sur le 101.5 FM, Great Jazzman. Ouais. Et ce que j'aime énormément, c'est le début, parce qu'on a l'impression, enfin, je pense que c'est un personnage qui rentre dans un bar, il s'assoit, on entend le bruit des glaçons. Ouais. Et j'avais l'impression, moi, de faire une halte, ouais, et de regarder un peu en arrière sur tous les voyages un peu dans lesquels vos musiques nous emmènent, mmh, dans toutes les galaxies. Et là, j'avais vraiment l'impression de me poser. Ouais. Et je voulais savoir, pour toi, cette chanson, elle revêt quel sens en particulier finir l'album
bonne,
comme
c'est
ça?
C'est une bonne question. J'ai plein de trucs à dire. Enfin, moi, à la base, je suis un pianiste jazz. Donc le jazz, j'adore ça. Je sais que c'est une musique qui n'est pas très FM et qui rebute beaucoup de personnes. Je m'en fous. Je mets toujours une musique de ce style-là parce que ça me fait plaisir de le faire. Dans le premier album, c'est pareil, j'en avais mis une dans le même genre. Là, j'étais encore plus loin, c'est vraiment du polar jazz pur et dur. Comme j'ai bossé aussi sur des courts-métrages, choses comme ça, j'aime bien faire du sound design, comme on dit, enfin, du design sonore. Et donc, tout le début, effectivement, je voulais essayer de retranscrire un mec qui se balade dans la rue, qui rentre dans un club et qui s'assoit, qui prend un verre et qui écoute le truc. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. En guise d'introduction, quoi. Et le titre, donc c'est J3392, The Great Jazzman. C'est un hommage à mon père, tout simplement, qui m'a transmis la musique. Lui, il adorait le jazz aussi. C'est comme ça qu'a commencé la musique chez moi, à travers le piano. Et donc, je me suis dit, je vais faire une chanson en hommage à lui. Donc, c'est lui, J3392. Et le jazz, pour les raisons que j'ai expliquées, quoi.
Et votre album raconte toute une histoire?
Pas exactement. On n'est pas encore sur de l'album, d'accord, concept, okay, qui a une trame continue. Par contre, chaque chanson est bien identifiée à un élément de l'univers. Ça raconte soit des personnages, soit des lieux, soit des interactions. Il y a toujours quelque chose, soit un. Parce que les personnages dedans se transcendent un peu grâce à la lumière verte. Mais par contre, c'est pas un espèce de truc continu. Après, chacun peut l'interpréter comme il veut. C'est ça qui est bien aussi. Comme on a une musique quasi instrumentale, il y a quand même de la voix maintenant. Il y en aura de plus en plus, je pense, parce que les gens finalement s'y retrouvent quand même. Mais le fait de mettre des grands passages sans voix, ça permet vraiment de partir dans des délires personnels. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Les gens me racontent leur histoire avec la musique.
D'accord.
C'est une musique aux accents très progressifs.
Ouais.
Bon, je fais référence à Yes.
Ouais.
C'est vraiment pour moi des pièces avec des petits chapitres à l'intérieur, ouais, même, donc des musiques. Et le fait, moi c'est curieux, mais j'ai regardé un peu les dates du Distortion Process Tour là, de 2022. Ouais. Vous tournez beaucoup dans les festivals geek. Ouais. Il y a eu le BGF,
ouais,
il y aura Geek Ferries, ouais, le Japan Tours. Et le fait de jouer justement dans ce type de festival, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est, ça vous botte vraiment de plus que dans des salles de concert classiques?
Non. Moi, ça me botte de jouer partout. Et je vais jouer là où on me propose. Aussi simple que ça. Il se trouve que dans les conventions pop culture, les gens sont plus ouverts d'esprit.
dans les concerts de métal ou...
Absolument.
Ah ouais.
Et Ogezor, par exemple, c'est un groupe qui est un peu boudé, entre guillemets, par le milieu métal. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Parce qu'on n'est pas assez métal, on n'est pas assez électro, mais on fait de l'électro quand même. On n'est pas assez atmo, mais on est atmo quand même. On n'est pas assez prog, mais on est... En fait, souvent... on revendique une ouverture d'esprit, mais en fait, dès que tu fais quelque chose qui n'est pas dans une case, bah finalement, ça ouvre pas les portes. Et donc, on fait des concerts métal, donc il y a des gens qui nous font jouer et on les remercie. Tout le monde n'est pas dans le même sac. Mais, fort est de constater que l'ouverture d'esprit, ça se revendique pas, ça se fait, quoi. Alors que dans les conventions, il y a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus importante où les gens, c'est même culture japonaise, ils disent, on nous fait de la science-fiction, oh bah c'est bien, venez aussi, ça va plaire à des gens, et de fait ça plaît à des gens. Et voilà. Et on vient par exemple chez vous à Imaginaire, c'est un dédié à la littérature, ça vous empêche pas d'inviter, donc ça par exemple, j'ai pas besoin de prouver que vous êtes ouvert d'esprit là-dessus. C'est pas pour vous bourrer la règle, je dis ça, mais. Par contre, des trucs, il y a des. À Nantes, enfin dans la région, il y a des machins. Bah. On n'existe pas, donc bah, écoute, c'est comme ça, on ne va pas mourir, mais
c'est dommage,
de constater. Quoi.
En plus, là, jouer dans les festivals geek, je le dis sur le 101.5, on sent que votre démarche artistique, elle s'inscrit vraiment bien dans la culture geek, et je trouve que c'est un prolongement logique.
Ça s'inscrit bien dedans, ça c'est sûr, mais ça pourrait s'inscrire aussi dans d'autres, parce que nous, on a une setlist qui évolue, c'est-à-dire que ce qu'on va jouer ce soir, c'est pas forcément la même qu'on va jouer sur du pur métal, où là, on va enlever les reprises Star Wars et compagnie, qui sont bien pareilles.
Pourtant, on tape bien.
Ouais, c'est ça. Mais on va plus axer métal, parce que ça, on sait faire aussi. Enfin, on a un background métal, on va pas se cacher non plus. Donc, on sait s'adapter, mais après, c'est des questions d'opportunité, de qui nous propose quoi.
D'accord.
Il faut être capable de... Ogezor, c'est un projet qui est compliqué, c'est un peu un télo. Si t'écoutes 15 secondes ou 30 secondes, en fait, t'as rien. Enfin, tu peux pas savoir ce qu'on fait parce que tu tombes sur la musique jazz. Ah, ben c'est un groupe de jazz. Bah non, bah, c'est raté parce qu'en fait, si t'écoutes la première, c'est du dark web. Puis si t'écoutes la deuxième, bah, en fait, c'est du metal indus. Puis si t'écoutes la troisième, c'est du prog.
Nous, on nous pose souvent la question, mais qu'est-ce que vous faites comme style de musique? En fait, moi, j'ai souvent tendance à faire. Alors avant, je disais, on fait du Entropy Zero. Maintenant, on fait du Ogezor. Et c'est pas présomptueux de dire ça. C'est vraiment l'idée de dire, bah voilà, bah, attendez, avant de vous dire, on fait du métal, où on fait ceci, où on fait cela, où les gens vont nous dire, ah ouais, alors eux, ils vont jouer chez les geeks, et puis ils vont pas jouer chez les métalleux, ou ils vont jouer chez les métalleux, donc ils vont pas jouer chez les geeks. Bah, prenez le temps d'écouter déjà ce qu'on fait. Une fois que vous aurez fait une idée assez simple, parce que ça va vous sauter aux yeux ce qu'on fait tout de suite, bah là, voilà, vous saurez si vous aimez ou pas.
Après, c'est vrai qu'il faut prendre le temps, et que dans un monde qui va toujours plus vite, on a vite fait d'écouter 10 secondes et de passer à un truc, je peux pas dire le contraire. Enfin, moi, ça m'arrive de le faire aussi. Donc,
Tu te dis qu'il y a un jeu vidéo avec l'album.
Ouais, je me suis levé le matin. Un matin, et je me suis dit, putain, je vais faire un jeu vidéo dans les hivers d'Entropy Zero.
C'est ça le pire.
J'ai appelé mon frère, j'ai dit, putain, ce serait bien qu'on fasse un jeu vidéo. Parce qu'on est geek, mon frère va encore plus.
Ouais.
Il me dit, ah ouais, ce serait cool et tout. Je dis, bon, allez, c'est parti. Ouais, j'avais jamais codé rien de ma vie. Puis, ouais, j'ai fait un truc. Alors, c'est pas un triple A, hein, on est d'accord, mais c'est du click and play, quoi. C'est, il y a quand même du contenu, hein. Ça se finit pas en 10 minutes. Et voilà, donc l'idée, c'est que tu intègres, tu travailles dans sur le Bunker Zero, donc c'est le vaisseau mère d'Ogezor, et tu découvres tous les personnages qui se présentent, en fait. Allez, t'as des missions, t'as des énigmes, et après t'as une petite mission sur une planète. Voilà, et puis il y a des références aussi à la pop culture, des choses qu'on aime bien. J'ai glissé Robocop, j'ai glissé du Star Wars, j'ai glissé du.
Okay.
Du match, je sais plus quoi, il y a plein de choses, et voilà. Donc c'était ça un peu l'idée. Ça m'a pris un peu de temps, mais je suis content de l'avoir fait, c'était le rendu, c'est original, on peut dire.
Bon, on va voir ça. Dernière pas question, projet, nouveauté.
L'album vient de sortir, donc ouais. Distortion Process, avec le clip. Donc, les deux vont ensemble. Hein, c'est
un clip qui dure
13 minutes, presque un court-métrage.
Là aussi, il y a eu du taf. Hein.
Ouais, ça a pris du temps. Moi, j'ai profité de mon chômage pour, pour bosser dessus. Ça va mieux maintenant, je te rassure. Je suis au chômage. Donc ça, voilà, ça c'est sorti. Voilà, il y a des chroniques qui commencent à arriver. Des interviews comme ce soir. Donc on a des concerts qui arrivent pas mal. Donc on a au moins un concert par mois, si ce n'est plus. Et donc vraiment les projets à venir, c'est un nouveau clip. Donc on était parti sur une idée, mais là on va partir sur un autre délire. On va pousser le curseur encore plus loin. Donc là, le prochain qui va sortir, ça va être du badass vraiment métal. du vrai, mais enfin, je pense, hein,
ouais, je pense qu'on
pense,
mais
ça du vraiment du métal électro. Et le clip qui va aller avec, je pense qu'en en fait, les gens vont dire ah non, mais c'est encore pas du Gogazer. Ben si, c'est car là, ce sera plus du cosplay, ce sera, je pense, ce sera vraiment très. Je vais pas trop en dire.
Ok, mais... bon, on t'es pas obligé.
On verra ça. En tout cas, il y a ça.
T'as une date à peu près d'idée.
Non, là, on est en train de préparer, faire des repérages. Ouais. Moi, j'ai fait un scénar de, aussi de court-métrage, donc qui est terminé. Je sais sur quoi on va aller. Je cherche un peu des partenaires de prod. Oui. Parce que bon, là on parle, il faut un peu des pépettes, hein, quand même. Hein. Ouais. Faut pas se cacher non plus. Mais là, ce sera vraiment de faire un truc. Voilà. Un cran dessus, quoi, un vrai court métrage, et je parle pas d'un court métrage ambitieux. Et donc, comme c'est ambitieux, je sais pas si j'y arriverai, mais c'est tout le challenge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est déjà pas mal. Mais ouais, on a sorti un, je me suis associé donc à avec Spoiler, donc c'est Indécent, c'est une association de jeux de plateau et jeux de rôle, ouais, qui présente plein de jeux différents. Et on a fait un jeu de cartes au Gezor. Donc c'est sur une base d'un memory très très travaillé, avec des jetons, des points quantiques, des points d'antimatière et tout un tas de trucs. Et donc il est terminé. Il reste plus qu'à le produire. Et donc voilà, c'est un truc qui va sortir vraiment là incessamment sous peu. En mode proto, c'est-à-dire que ça coûte quand même cher de sortir des jeux. Mais on, c'est-à-dire qu'on va faire un truc, on se fera pas d'argent dessus. Enfin, moi je m'en fous de faire de l'argent là-dessus. Et l'idée, c'est de se faire plaisir, de sortir un truc qui est beau, enfin en tout cas le plus beau possible de ce qu'on peut faire, et essayer de le faire partager avec les gens, et que les gens y jouent, ils prennent du plaisir. C'est toujours le même principe. Donc ça, ça, ça me marque. Ça va sortir très très bientôt.
Super.
Voilà.
Bon ben merci. On peut vous suivre comment alors au Gezor?
Ah bah, on a tous les réseaux, hein, donc vous pouvez déjà nous retrouver sur les Bandcamp, enfin sur le Bandcamp spécial au Gezor. Vous allez avoir l'Instagram, bien évidemment, le Twitter, le Facebook. On est partout. Ouais, on essaie de vraiment
partout. C'est plus ou moins développé selon les plateformes.
Selon les plateformes, mais après on essaie de distiller au maximum toutes les informations, ouais, parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, de toute façon, les réseaux, ça devient un peu un incontournable. Hein, donc voilà, donc voilà, toutes les infos qu'on a, à chaque fois qu'il y a quelque chose, bam, ça tombe. Donc
ouais. Après, vous pouvez aller sur ogezor.com, voilà, et là vous avez directement, vous avez une belle photo de nous, bien évidemment, mais juste dessous vous avez tous les liens vers tous les réseaux. Donc ogezor, ogezor.com, et là vous avez vous redispatchez où vous voulez.
C'était l'interview de Gezor qui s'est passée pendant le salon Kurlansky le samedi soir, juste après leur concert. Vous entendez d'ailleurs un petit peu le bruissement de la foule en délire de l'après-concert. L'équipe imaginaire vous abandonne. Ça a été un véritable plaisir de pouvoir recevoir Benjamin Kalam, qui est aussi intéressable dans ses lignes que au micro. Et puis Veda, merci, à côté. Veda, tu as le droit au mot de la fin.
Eh bien, bonne soirée.
Merci.
Merci.
C'est parfait.
Retrouvez les voix du Scénarium au 101.5 sur Radio G. Et puis on se retrouve dans deux semaines. Bonne soirée tout le monde.
Bye bye. Adios.
Salut.